Donc aujourd'hui, un sujet triste. On s'étonne qu'aujourd'hui encore, dans certains pays d'Asie comme la Chine ou l'Inde, la proportion d'hommes adultes en âge de marier dépasse de beaucoup le seuil naturel de 105 hommes pour 100 femmes. Cela crée des millions de célibataires involontaires. On attribue ces pratiques à des idéologies misogynes, en espérant qu'avec une politique de propagande, on pourrait éradiquer ce fléau. Mais on a tendance à négliger les raisons que pourraient avoir des parents de préférer des garçons aux filles dans les sociétés où l'économie est encore agricole, où la persistance de la dot bénéficie aux parents du mari. Et enfin, si on le considère nécessaire d'empêcher que la population s'envole, il est plus économique de ne tuer que les filles plutôt que garçons et filles sans distinction. Aujourd'hui, on termine les grossesses involontaires par l'avortement. Mais dans le passé, il était beaucoup plus sûr et moins dangereux pour la mère de tuer ou d'exposer le nouveau-né. Cela ne devrait pas surprendre. L'infanticide, comme le meurtre ou la guerre, semble être une pratique universelle de notre espèce. Bien que sa fréquence peut varier beaucoup dans le temps et dans l'espace selon le contexte spécifique. En cela, les humains n'ont rien d'exceptionnel, car les éthologues, ceux qui étudient le comportement des animaux, ont noté sa pratique dans un grand nombre d'espèces, particulièrement parmi les mammifères. En langage darwinien, l'infanticide et l'avortement peuvent constituer des mécanismes adaptifs qui résultent d'une décision rationnelle du parent, typiquement la mère. Donc, c'est ce que je vais vous faire, c'est un exposé d'histoire néo-darwiniste. C'est ce que je fais. J'y suis arrivé par l'histoire des comportements en France, en particulier Emmanuel Louis-Ledurie ou Yves Castan. J'ai commencé là et ensuite je m'évolue de plus en plus vers des choses que les humains ont en commun. Et l'infanticide est un de ces traits. Dans la plupart des sociétés, les nouveaux-nés ne sont pas considérés des personnes à part entière avant l'accomplissement d'une cérémonie dans laquelle on leur confère un nom et une parentèle. Et ceci n'a rien de spécifique à l'Europe. Revenons un instant en Asie, de l'époque moderne. En Chine et au Japon, le néonaticide ressemblait à l'avortement, qui permettait aux parents de choisir le nombre, le sexe et l'espacement des enfants, aidant aussi à surmonter une conjoncture difficile comme la faim. Et dans une étude récente, l'historien américain de Yale, l'historien du Japon, Fabian Drixler, suggère qu'environ une grossesse sur trois au Japon au XVIIIe siècle, terminée ainsi par un infanticide, malgré la désapprobation du gouvernement. Même en Asie, le gouvernement n'approuve pas l'infanticide, mais ça n'a pas grande influence sur les pratiques. Les historiens présumaient souvent que les Européens, étant chrétiens, étaient moralement supérieurs. Un historien français de l'Italie du Sud, une fois, s'est étonné combien il y avait plus de garçons que de filles, ou plus d'hommes que de femmes dans les villages. Il se demandait s'il pouvait avoir de l'infanticide, et il a conclu, mais ce n'était pas des barbares, ça doit être autre chose. C'est Gérard de Lille, dont j'admire les travaux d'ailleurs. L'Église a honni l'infanticide dès l'Antiquité. Et les États modernes l'ont rendu criminel, bien que la théologie sur l'avortement était alors plus nuancée que maintenant. Les historiens qui ont étudié l'infanticide en Occident sont allés regarder du côté des archives judiciaires. Et il trouvait un phénomène qui était remarquablement semblable, quel que soit le pays, ou même quel que soit le siècle. Les tribunaux poursuivaient les mères célibataires qui avaient cherché à cacher leur grossesse avant de tuer l'enfant tout de suite après un accouchement clandestin. Donc ça, c'est le modèle de l'infanticide criminel tel qu'on le trouve dans les tribunaux. Au XVIe et au début du XVIIe siècle, les juges punissaient sévèrement ces mères chaque fois qu'ils arrivaient à établir leur culpabilité, avant de devenir plus clément par la suite. Mais ces historiens n'ont pas pensé appliquer aux Européens les méthodes basées sur le sex ratio, c'est-à-dire sur le taux de masculinité, une méthode qu'on a toujours adoptée pour l'Asie. Bien plus, les premiers démographes prétendaient qu'avant la transition démographique du 19e siècle, les couples mariés ne prenaient pas de mesures contraceptives et que le nombre d'enfants baptisés représentait ce qu'ils appelaient la fécondité naturelle. Mais avec le temps, les démographes ont noté que la fécondité européenne, à toutes les époques, était basse relative aux possibilités biologiques. Ensuite, ils se sont appliqués à percer le secret des familles dans le contrôle des naissances. Et il existe une littérature abondante sur l'âge au mariage et son accroissement lors des périodes difficiles. Et ici, je ne voudrais pas la remettre en question. Ce sont des acquis. Le consensus, c'est que les Européens ne pratiquaient pas l'infanticide de routine comme les Asiatiques ou les autres peuples autour du monde où on a noté la pratique depuis longtemps. Mais cette conclusion a été prématurée car on a rarement pris la peine d'établir le sex ratio au moment du baptême pour l'ensemble de la société ou pour chaque groupe social. Pour faire ce travail, le problème partout réside dans la qualité de l'enregistrement dans une époque où la vaste majorité des accouchements se faisaient en dehors des hôpitaux. Les statistiques asiatiques à l'époque moderne sont basées sur des recensements annuels où l'on omettait d'inclure les enfants qui sont nés et ensuite morts dans l'intervalle. En revanche, les registres paroissiaux à partir du XVIe siècle, devait noter l'existence d'une nouveau-né aussitôt que possible, dans les 48 heures le plus souvent. Et cela est devenu effectivement la norme dans les villes où le nombre de prêtres était pléthorique. Très difficile de cacher un nouveau-né dans un endroit où il y a pas mal de prêtres, ou même où les gens vivent à proximité les uns des autres pendant des mois. On demande à la mère, mais quel sera le nom du bébé? ça fait partie de l'information de tous les jours qui est importée à tout le monde. Certains historiens ont été imprudents à présumer que toutes les naissances d'enfants vivants ont abouti à un baptême. Et ils parlent du nombre de naissances quand ils ne voient que le nombre de baptêmes. Au XVIIIe siècle, on devait aussi noter les enfants morts-nés, mais leur enregistrement n'était pas systématique avant le XXe siècle, quand ils représentaient 3 ou 4% environ de toutes les naissances. À l'époque moderne, la proportion était probablement bien plus, mais on manque de moyens pour l'évaluer. J'ai vu des articles sur la mortinatalité en Angleterre au XVIIe siècle, on est allé jusqu'à 15%. D'autres, non, c'est exagéré, pas plus de 10. Mais en fait, on divine. On n'a pas des statistiques fiables parce que si un enfant est mort-né, on ne le baptise pas. Et si les parents mariés tuaient leurs enfants à la naissance, prétendant que ceux-ci étaient mort-nés? Les démographes et les historiens du comportement ont toujours admis que l'infanticide aurait pu être une méthode de contrôle des naissances. On admet en général que c'est vrai pour le Moyen Âge. Et puis les recherches portant sur la Toscane au 15e, 16e siècle aboutissait à ses conclusions. L'historien américain Richard Trexler a découvert une série d'absolutions épiscopales pour les mères qui avaient tué, soi-disant par accident, leurs enfants couchés dans le lit avec elles. C'est une pratique que l'Église a tâché de proscrire en le rendant un cas réservé. Mais travaillant dans les archives épiscopales, je n'ai jamais trouvé de cas comme ça pour le XVIIe siècle, ni en Toscane, ni en Aquitaine. Célèbre aussi le travail de David Herlihy et de Christiane Clapiche-Zuber sur le taux de masculinité dans la campagne florentine en 1428. Ils avaient un énorme recensement de l'état de Florence. Donc, il semble tout à fait possible que l'infanticide du Moyen-Âge aurait continué pendant l'époque moderne. Il aurait été facile de prétendre qu'un enfant étouffé à la naissance soit mort-né. Et en France, les autorités ne pensaient pas enquêter cela avant 1867. Il y a un très beau travail, une maîtrise, une thèse de maîtrise portant sur Canton près d'Étampes, Île-de-France. Il semble que des médecins du coin et d'autres personnes pensaient que c'était assez typique pour les parents de tuer leur nouveau-né et de ne pas le déclarer à la mairie. De prétendre qu'il était mort-né et on pouvait l'enterrer dans le jardin. Et que ceci n'était pas perçu comme un problème avant la fin du Second Empire. Et ensuite, probablement, les enquêtes se limitaient aux villes. C'était publié dans une obscure périodique de la banlieue parisienne il y a 30 ans. Mais parfois, ces thèses de maîtrise sont remarquables. Toujours pour la France, la sociologue américaine Brigitte Beckold, travaillant à partir de l'annuaire statistique, note combien les naissances déclarées à la mairie pour la fin du 19e siècle étaient presque toujours déséquilibrées dans leur taux de masculinité, trop élevés dans les départements agricoles, trop bas dans les départements ayant une industrie textile très développée. Bechtold, c'est une sociologue, donc elle travaille sur des statistiques à grande échelle. Je ne suis pas convaincu qu'elle lit le français. C'est la première à avoir mis le doigt sur quelque chose qui pouvait se passer dans la France contemporaine. Ces études de taux de masculinité sont très rares en Europe. La première était faite en 1979. Par une mathématicienne généalogue qui s'appelait Glynis Reynolds sur 8 paroisses près de Cambridge, en Angleterre. Elle a noté un taux moyen, de masculinité de 111%. Pendant la fin du XVIIe siècle, c'était le sommet de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. C'est la première personne à conclure que l'infanticide aurait pu être pratiqué couramment. Mais je répète, c'est une mathématicienne qui faisait cette généalogie. Ce travail était totalement ignoré par des démographes. Il n'est cité nulle part. Alors, vers l'an 2000, en examinant le registre baptême pour un village toscan qui s'appelait Montefolonico, dans l'état de Sienne, j'ai noté des irrégularités intéressantes dans la fréquence des baptêmes masculins. Donc, j'étais étudiant à Bordeaux pendant l'époque où tout le monde voulait faire de la démographie. Mon maître Jean-Pierre Pousseau nous expliquait comment étudier ces registres paroissiaux, même en première année. Et donc, il fallait établir une comptabilité par année récolte, c'est-à-dire l'année qui commence le 1er juillet et qui termine le 30 juin. Si vous faites une année calendrier, vous avez deux récoltes. La récolte de l'année précédente et ensuite la récolte de l'année suivante. Et si l'une était très bonne et l'autre très mauvaise, ça donne une moyenne. Mais si vous faites l'année récolte, vous verrez s'il y a des récoltes mauvaises. C'est bêtement simple à faire d'ailleurs. Et donc, j'ai noté tout de suite qu'en année de famine, on baptisait deux fois plus de garçons que de filles. Plus, en comparant les baptêmes avec le recensement ecclésiastique, ce qui s'appelle l'état des âmes ou le status animarum, de même qu'avec les registres de confirmation, confirmation, ça a lieu vers les 12-13 ans, on pouvait établir des taux de masculinité par âge et par résidence. Dans les années suivantes des mauvaises conjonctures, il y avait beaucoup trop de garçons à la campagne. En revanche, dans les quartiers les plus défavorisés du village, il y avait beaucoup trop de filles. Donc, voici la première graphique, Montefalonico au XVIIe siècle. Vous avez plusieurs années très difficiles, 1622, ça c'est les garçons. Ensuite, 1629, il y a une famine. Je me demande ce qui s'est passé là, en 1636. 1648 était la plus grande famine du XVIIe siècle en Toscane. Juste après, dans les années 50, toute une décennie très difficile, où on voit deux fois plus de garçons que de filles, ou presque deux fois plus de garçons que de filles. Mais les chiffres ne sont pas très élevés. C'est un village. Mais c'est le premier indice qu'il laissait penser qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. À Montefalonico, il était possible de regarder de plus près, à examiner les couples qui avaient des intervalles trop longs entre deux baptêmes, c'est-à-dire supérieurs à 30 mois, et on pouvait déterminer si l'enfant précédent ou l'enfant subséquent était un garçon ou une fille. Et ça, c'est la reconstitution des familles propre à la démographie sur des communautés stables de dimension modeste. Montefalonico et son territoire avaient dans les 800-900 habitants au XVIIe siècle. Assez stable, sauf que suite à une famine, on voit disparaître certaines familles et on voit arriver de nouvelles familles de l'extérieur. Et ensuite, ils restent pour des générations. À Montefalonico, on pouvait établir aussi le statut des parents. On peut faire un classement par statut social parce que les élites emploient des titres honorifiques. Maestro, signore. Et en France, c'est la même chose. Maître, sieur. Et des fois, ils mettent le statut socio-professionnel. Ils permettent de séparer les élites des autres. Alors, utilisant cette méthode, mon étudiante de maîtrise, Laura Hines, examina plus de 31 000 baptêmes pendant un quart de siècle dans la ville de Parme et sa juridiction rurale pendant les premières décennies du XVIIe siècle. Parme, à cette époque, avait dans les 30 000 habitants, c'est-à-dire une ville considérable, mais aussi peut-être une dizaine de milliers de paysans qui habitaient dans la juridiction hors des murs. Les villes italiennes avaient souvent un seul fonds baptismal pour des dizaines de paroisses. Et ça, c'est un énorme avantage parce que typiquement, si vous avez 30 paroisses ou 40 comme Parme, vous avez des registres pour certaines paroisses, mais pas pour d'autres. Là où il y a un seul fonds baptismal, tous les gens de la juridiction, de la ville et de la campagne doivent venir là pour avoir le baptême et il n'y a pas de lacune. Et donc, depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours, nous avons tous les baptêmes. Des historiens locaux avaient déjà établi qu'à partir de 1600 et ensuite pour deux siècles, il y avait un déséquilibre croissant de baptêmes en faveur de filles. Donc Hines, qui avait dans les 1200-1300 baptêmes chaque année sur une quarantaine de paroisses, a montré un étonnant déséquilibre entre les baptêmes urbains, trop féminins, et les baptêmes ruraux, trop masculins, un écart moyen d'environ 30%. Nous ne parlons pas de petits écarts, c'est des écarts énormes. Les paroisses les plus féminines étaient celles où l'on pratiqua l'industrie textile. Et cela rejoint les conclusions de Bechtold pour le 19e siècle français. C'est-à-dire, les parents avaient de bonnes raisons de préférer les filles aux garçons. Sur un quart de siècle, le nombre d'enfants manquants se situa entre 1500 et 2000, environ 5% du nombre de baptêmes. À présumer que les paysans ne tuaient jamais leurs garçons et que les artisans ne tuaient jamais leurs filles. Donc 5% au bas mot. On a pu regarder la courbe du prix des céréales. À Parme, ça ne comptait pas énormément. Des villes, surtout en Italie du Nord, en général, sont pas mal approvisionnées. L'écart que nous voyons à Parme est plus structurel que conjoncturel. À Montefalonico, c'était clairement conjoncturel. Il y avait des famines et on voit le taux de masculinité monter en pic. Mais à Parme, ça ne marchait pas comme ça. On pourrait conclure que les idéologies misogynes comptaient moins que les stratégies parentales. Les parents qui défendaient leurs intérêts reproductifs. Là, je suis sensible à un des grands sociologues du XXe siècle français, qui est mort l'année dernière, Raymond Boudon, que je préfère de beaucoup à Bourdieu. Essayez toujours de chercher les bonnes raisons derrière les actions qu'on observe. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre, un anthropologue spécialiste de l'instinct maternel chez les humains comme chez les primates. C'est une Californienne qui s'appelle Sarah Blaffer Hurdy, H-R-D-Y, dans un grand livre, il doit être traduit probablement avec le titre Instinct maternel, que les mères adoptent des règles flexibles qui avantagent les mâles dans certains contextes et les femelles dans d'autres. Les mères calculent l'ordre de la naissance, la qualité de l'enfant, l'aide disponible, la probabilité de survie. Et c'est l'allaitement qui aboutit à l'attachement entre l'enfant et la mère. C'est une psychologue de spécialisation sur l'attachement. Il n'y a rien d'inné, écrit-elle, de préférer l'un ou l'autre sexe. J'ai présenté le premier travail sur Montefalonico à la Sorbonne il y a une quinzaine d'années devant mon maître Jean-Pierre Poussou. Et Poussou n'est pas un tendre, je croyais qu'il allait me massacrer devant tout le monde, pour faire un exemple. Et au contraire, il n'était pas tout à fait convaincu sur le champ, mais il disait que continuez. Nous sommes à nos débuts, et donc je continue avec l'aide de mes propres étudiants. Il faut dire que c'est une recherche qui est facile. Et il suffit d'avoir des registres de paroissiaux, avec les étudiants qui savent lire l'écriture du XVIIe et XVIIIe siècle. Et de plus en plus, d'abord les moments, on fait tous les microfilms, au moins en France, pas en Italie. Et maintenant, on est en train de mettre des registres paroissiaux sur le site internet des archives départementales. Donc, on n'avait pas besoin de quitter Halifax pour faire cette recherche. On pouvait aller chez les mormons où ça coûte dans les 5 euros la bobine. Donc, c'était une recherche qui est pratiquement gratuite. Et je ne m'en suis pas privé. J'ai tourné vers l'Aquitaine. J'ai fait mon doctorat sur l'Agenais. Et j'ai fait faire des recherches. J'en ai fait moi-même sur les petites villes et les gros bourgs agricoles. Le problème, c'est d'avoir une communauté assez grande pour que les chiffres signifient quelque chose. Donc, on a besoin de choisir les endroits, les paroisses les plus grandes. J'ai pas le temps de descendre dans le détail, mais partout, on trouve des écarts à la norme intéressants et souvent éloquents. Un de mes étudiants, Dominic Rossi, étudiant la ville de Villeneuve-sur-Lot, au cours du XVIIe siècle, a noté que le taux séculaire était presque normal à 106. 106 garçons pour 100 filles. Mais qu'il y avait deux périodes contrastées. Pendant l'époque des catastrophes des années 1620-1660, le taux de masculinité pour tout le monde, élite comme les classes inférieures, était presque 109, mais qu'avec la paix de Louis XIV, il est tombé à 104. Et ça donne ça. À Villeneuve, dans les 200 baptêmes par an, ce qui n'est pas rien. Et ça peut monter très haut pendant des années difficiles. Des années 20, des années 30, il y avait une famine et une peste. Il y avait une autre famine dans les années 40, une autre peste et famine dans les années 50. Et ensuite, il y en a accalmie pendant des décennies. Et avec des années difficiles de temps en temps, où ça peut monter en flèche encore, intéressant à noter que la grande famine des années 94, ça descend vers le bas, comme si on voulait garder des filles cette fois. les grands sauts dans les taux de masculinité correspondent à des crises. On ignore si vers la fin du XVIIe siècle, il existait la proto-industrie qui pouvait favoriser les filles. Mais il semble que le taux de masculinité peut changer si le contexte change aussi. Mais cela devient plus visible si on enlève la part des élites. Le plus souvent, la part des élites, le taux de masculinité des élites est plus proche de la norme que le taux des classes populaires, qui sont beaucoup plus nombreux. Là, on a quand même plus de 15 000 baptêmes. Cette année, j'ai fait travailler une étudiante sur la ville de Marmande, une ville de dimension comparable à Villeneuve, 3 ou 4 000 personnes. Et là, on note que la deuxième moitié du XVIIe siècle est une période de crise dans son ensemble. Donc ça, c'est le nombre de baptêmes. Le taux de masculinité dans son ensemble n'était pas trop anormal, mais il touchait le maximum pendant les années les plus difficiles de la fin du siècle. Là, on a les baptêmes par sexe, donc ça monte en pic pour les garçons plus souvent et de manière plus violente pour les garçons que pour les filles. Et ça se rend visible, nous avons pour la plupart de la deuxième moitié du XVIIe siècle des périodes de 5 ans dans la norme, ici, dans la norme là, dans la norme début du XVIIIe siècle, mais pour les grandes période de famine 1693-14 et les années aux alentours presque 120. Jusqu'ici, on a regardé que des registres catholiques. En Aquitaine, dans la Genée en particulier, ça dépend de l'époque, entre un tiers et le cinquième de la population appartenait à l'Église réformée. Les registres des églises calvinistes ressemblaient beaucoup aux paroisses catholiques, mais malheureusement, ils sont beaucoup plus fragmentaires. Donc, on n'a pas de belles séries couvrant des siècles pour des protestants comme on a pour des catholiques. Il y a d'autres problèmes d'interprétation. Les protestants, souvent, englobent les notables. Aussi, la population protestante n'était pas fixe socialement pendant toute l'époque. Ils perdaient des classes inférieures avec le temps. Donc, ils sont plus difficiles à analyser. Le plus souvent, le taux des élites reste proche de la norme, tandis que les taux populaires restent plus élevés avec des pics très impressionnants pendant des années de mauvaise récolte. Donc, j'ai regardé des églises comme Nérac, Tonnens. N'oubliez pas que les premiers travaux étaient par cette dame anglaise autour de Cambridge, des Anglicans, et on voit les mêmes phénomènes. J'étais un historien de la religion J'ai fait un bouquin sur la coexistence confessionnelle en Aquitaine au XVIIe siècle et j'ai appris que les gens ne croient pas la moitié des choses qu'ils devraient et que c'est normal et c'est bien. Et donc, on ne doit pas trop présumer. On parle beaucoup des différences entre catholiques et protestants et beaucoup de cela relève de la mythologie. Donc, nous avons regardé l'Angleterre, l'Italie rurale, l'Italie urbaine, l'Aquitaine. J'ai voulu étendre l'analyse jusqu'à l'Amérique du Nord coloniale. Donc, j'habite la Nouvelle-Écosse, l'ancienne Acadie. Nous avons seulement 3 registres exploitables pour la colonie d'Acadie pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Un peu moins de 5000 baptêmes, ce n'est pas énorme. Au début du siècle, c'était une époque de guerre et de razzia par des troupes et des colons anglo-américains qui arrivaient à brûler les fermes. Il faut dire que les Français le faisaient pareil pour se venger. C'est une période qui correspond à un taux de masculinité importante. Et puis, la paix renverse un peu la tendance, légèrement trop de filles qui résultent dans l'explosion démographique de la colonie, une population qui, même sans immigration, doublait tous les 20 ans. Mais il faut être méfiant, les chiffres ne sont pas très robustes. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas concluant. Là, on voit le néonaticide. On tue le bébé avant de le faire baptiser, quelque chose qu'on doit faire dans les 24-48 heures. Mais il y a une autre forme d'infanticide encore plus triste, analysé d'abord par des psychologues. Il y a un couple de psychologues près de Toronto qui ont écrit un livre sur l'homicide, un grand classique pour les psychologues. Malheureusement, ce n'est pas connu par les historiens, mais c'est un livre d'histoire. Ils ont travaillé dans les archives de la police de la ville de Detroit pendant que Detroit était la capitale de l'homicide du monde occidental. Et ces psychologues Martin Daly et Margot Wilson regardaient l'infanticide qui n'était pas rapide, infligé sur un nouveau-né, mais qui a survécu, un enfant qui devient un enfant de trop, un enfant encombrant. Dans le jargon néo-darwinien, les parents ne font que le strict minimum s'ils pensent que c'est peine perdue. Daly et Wilson étaient les premiers aussi à souligner combien un beau-père ou un mari qui doutait de sa paternité pouvait constituer un danger considérable pour la survie d'un enfant. Avant Daly et Wilson, personne ne s'est demandé si un père infanticide était le père biologique ou non. Et on a découvert rapidement qu'il y avait 400 fois plus de probabilités pour un parent non biologique à tuer un enfant qu'un père biologique. Et depuis cette époque, on commence à tenir ces statistiques. Il se peut aussi que la mère préfère ne garder qu'un des jumeaux. La proportion des jumeaux figurant dans les registres de baptême est souvent très basse. Assez basse à éveiller des soupçons. Donc, il se peut que les accouchements multiples étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui paraissent dans les registres paroissiaux. Et si on regarde les recensements ecclésiastiques, les status animarum, des enfants jumeaux vivant avec leurs parents sont plus rares encore. Il y a un démographe allemand. Lui aussi néo-darwiniste, il s'appelle Eckhard Voland. Lui et ses collaborateurs notent qu'au 18e, début 19e siècle, dans ce territoire près de Brunswick, les parents favorisaient garçons ou filles selon leur classe sociale. Le taux de survie était très différent. Il soupçonne que les parents n'ont pas forcément l'intention au meurtre. Mais il arrive que filles ou garçons meurent disproportionnellement selon la classe sociale. Nous sommes en train de faire le même genre de travail au Japon. où il n'y avait pas toujours une préférence pour les garçons, au Japon et en Allemagne, une infanticide lente semblait fréquent pour des riches et des pauvres ensemble. Ce n'est pas toujours le résultat de la misère. Ceci frappe spécialement les bâtards qui étaient condamnés si la mère souhaitait épouser un autre homme que le père de l'enfant. Donc ces petits-enfants sont rapidement vus par la mère comme une encombrance. Eckhart Volland ensuite établit la postérité de ces familles infanticides à plus long terme. Et ceux qui pratiquaient cet infanticide au XVIIIe siècle semblaient avoir plus de postérité à long terme, que c'était des pratiques adaptives. Cela leur permettait de porter à l'âge adulte un nombre plus grand d'enfants. On sacrifie un qui est encombrant, arrive à un mauvais moment où on a déjà trop de ce sexe, et ça permet d'investir davantage dans les autres qui survivent, qui se marient et qui d'autres. Pour faire bien ce genre de travail, c'est bien d'avoir les status animarum, l'état des âmes. Ils sont extrêmement utiles car ils permettent d'établir le lieu de résidence de chaque famille. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans un registre de baptême. Un registre de baptême, c'est tous les habitants de la paroisse figurent en ordre chronologique. Dans un recensement ecclésiastique, le prêtre procède de maison en maison. Il franchit le bourg et l'agglomération pour ensuite faire les fermes. Et ensuite, vous pouvez départager ceux qui habitent l'agglomération et ceux qui habitent à la campagne et établir des comptages par statut social et par âge. Le status animarum indique l'âge de chaque personne. Bon, plus ils sont âgés, plus ça commence à être arrondi à 5 et 0. Mais plus la personne est jeune, plus ça semble être exact. Malheureusement, ces status animarum sont très rares en France. J'en ai trouvé un quand même pour une bourgade calviniste en Agenais, une bourgade qui s'appelle Clairac en 1699. J'ai regardé les enfants de moins de 10 ans. À partir de 10 ans, les parents commencent à placer leurs enfants dans d'autres ménages. Mais c'est exceptionnel avant l'âge de 10 ans. Donc, en regardant ces enfants de moins de 10 ans, on arrive à des taux de masculinité pour les artisans à 100, 100 garçons à 100 filles, 93 seulement pour l'élite commerciale, mais pour les paysans dans la périphérie, le taux de masculinité est 123. Et ça semble revenir assez souvent, une préférence paysanne pour les garçons, surtout en année difficile. Bon, ce sont des travaux que j'ai présentés pour la plupart depuis une quinzaine d'années. Et c'est une corpus de recherche qui s'augmente d'année en année. Les historiens démographes objecteront que les chiffres sont trop petits pour être significatifs, oubliant un peu qu'ils établissent, eux, les âges au mariage et d'autres aspects du comportement sur les chiffres plus petits encore. Mais leur argument n'est pas faux. Il est souhaitable d'augmenter l'échantillon, d'avoir des chiffres plus robustes. Et donc, c'est ce que j'ai fait cette dernière année. J'ai choisi trois gros bourgs en Émilie, donc dans la plaine de l'Italie du Nord, à 15-20 kilomètres de la ville de Plaisance, de Piacenza, des bourgs dont les registres sont presque continuels du milieu du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Je m'arrête dans les années 1730-1740. Cela donne presque 70 000 baptêmes et ça comprend 11 recensements ecclésiastiques, ce qui est considérable pour un seul chercheur. Si on travaille en équipe, on peut faire ambitieuse, mais c'est la limite de ce qu'on peut faire. Ces bourgades ne sont pas socialement identiques, malgré leur proximité, mais on peut facilement voir qu'ils ont subi les mêmes alternances chronologiques de croissance et de crise. Et donc, trois bourgade le plus petit, Corte Maggiore, presque 17 000 baptêmes, Castel San Giovanni, 23 000 baptêmes, et Fiorenzuola, le plus grand, presque 29 000 baptêmes. Et nous voyons que les dates ne sont pas très claires ici, mais on voit la grande croissance juste avant les années 1590, qui était une catastrophe partout en Europe. Une chute. Ça remonte jusqu'aux années 1620 et ensuite une nouvelle chute. Ça essaie de remonter ensuite. Les années centrales du XVIIe siècle sont très dures un peu partout. Ça commence à remonter dans les années 60 pour chuter encore. Là, nous sommes dans le petit âge glaciaire. Mais quand même, c'est un nombre assez considérable de baptêmes. À Corte Maggiore, paroisse comptant entre 1800 et 2500 habitants, le taux de masculinité est toujours trop élevé, presque 109, pour les élites, comme pour les couches populaires du bourg et de la campagne. Ces écarts suggèrent à la fois une infanticide néonatale de conjoncture et peut-être un déséquilibre plus constant. Dans les périodes les plus néfastes, le taux moyen de masculinité pendant des décennies se situe entre 112 et 115. Donc ça donne Corte Maggiore. Là, je n'ai retenu que les classes populaires et vous pouvez voir les pics en faveur des garçons sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus forts que pour les filles. Dans les deux autres paroisses, le taux de masculinité pour la période semble strictement normal, c'est-à-dire 105-106. Les sceptiques pourraient conclure que toutes les autres paroisses dont il est question jusqu'ici étaient anormales, même si je les ai choisies au hasard. Mais de regarder de plus près, le taux annuel de masculinité démontre des bonds en faveur des garçons qui correspondent à des accidents climatiques et d'autres événements conjoncturels. Et il serait bon de les analyser comme seuil. Là, c'est le bourg de Castel San Giovanni. Donc, voilà la moyenne. C'est juste là. Mais vous voyez la violence en faveur des garçons, qui est assez périodique. Mais si on les ajoutait tous ensemble, ça donne 105. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire la moyenne mobile de 5 ans, le nombre de baptêmes, juste pour voir les tendances du mouvement de la population. Pareil pour Corte Maggiore. Fiorenzuola, on a plus de 24 000 baptêmes. Le taux de masculinité, 105,2, strictement normal. Cependant, on ne se trompe pas que ça part en flèche de temps en temps pendant les années les plus difficiles en faveur des garçons. Et la moyenne mobile, vous voyez le sommet de population à la fin du XVIe siècle. On n'a jamais rattrapé après, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Ce que j'ai voulu faire dans ce cas-là est établir des seuils. S'il n'y a pas d'infanticide, les écarts de la moyenne devraient être aussi fréquents en faveur des filles qu'en faveur des garçons. Et j'ai établi deux seuils, un très fort, plus de 45% au-dessus de 105, et ensuite de 25 à 45 points au-dessus ou en dessous de 105. Donc, en faveur des garçons, ça donne 16. En faveur des filles, cela donne une seule fois. Pour San Giovanni, des pics en flèche en faveur des garçons, 8 fois. En faveur des filles, 0. Et pour Fiorenzuola, des pics en faveur des garçons, 5. Et en faveur des filles, 0. Et ça donne 29 fois en faveur des garçons, une fois en faveur des filles. Les écarts moins violents, c'est plus équilibré, mais c'est toujours plutôt en faveur des garçons qu'envers des filles. Mais ces seuils très favorables aux bébés mâles ne correspondent pas aux hasards, même si le rapport avec la conjoncture n'est pas simpliste et unidimensionnel. Ils sont très violents lors des années désastreuses, mais pas toujours dans les années de mortalité maximum. les parents pouvaient intervenir pour tuer un nouveau-né au début d'une crise de subsistance, c'est-à-dire 1588, 1628, 1708, ou bien ils pouvaient intervenir au moment de leur reprise, 1593, 1612, 1632, quand les parents ne veulent pas avoir un enfant supplémentaire trop tôt. Et la probabilité que cette synchronisation soit l'effet du hasard est très réduite. Les trois paroisses obéissent à des évolutions semblables, mais pas strictement identiques. Et puis, ces déséquilibres peuvent durer des années. À Castel San Giovanni, dans les sept années entre 1587 et 1593, le taux de masculinité était de 143. Pour les huit années entre 1671 et 1678, il était 118. Pour les 19 années entre 1692 et 1710, il est de 111. Une intensité des écarts qui va en diminuant peut-être, mais le déséquilibre n'est pas un simple moment. Et il est durable. Dans certaines années catastrophiques, comme 1593 ou l'hiver de 1709-1710, le nombre de baptêmes chute brutalement, mais le taux de masculinité n'est pas exagéré. Je pense qu'il est tout à fait permis de penser que les parents pouvaient, dans les pires années, tuer garçons et filles sans beaucoup de discrimination. Ce que nous mesurons, ce sont des écarts. Si les parents tuaient garçons et filles en mesure égale, on ne verrait rien dans les statistiques. Tout ce que l'on voit, c'est les écarts, garçons-filles. Mais il est tout à fait possible de penser que dans les années de maximum mortalité, on a toujours pensé que c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée de la faim, mais ça pourrait bien être infanticide, et les parents pourraient tuer garçons et filles. Il serait aussi instructif à compter les jumeaux, suivant ce qu'a fait en France Guy Brunet pour le XVIIIe siècle. Pour les trois paroisses ensemble, cela donne 845 accouchements multiples, mais la fréquence peut varier beaucoup selon les époques. Au XVIe siècle, les accouchements multiples sont assez réduits en nombre. Il y a des années où il y a très peu d'accouchements multiples. 1629-30, ça correspond à une famine et une peste. 1646-48, une autre famine. 1676-77, une charité plutôt qu'une famine. 1694, famine. On objectera que les jumeaux pesaient moins lourd que les enfants uniques, et donc dans ces années difficiles, ils seraient morts avant le baptême tout naturellement. Mais j'ai regardé la chute du nombre de jumeaux chez les notables dans les décennies après 1680. Le taux d'accouchement multiple des jumeaux chez les élites tombe entre 5 et 8 pour 1000. Typiquement, c'est dans les 15. Et même alors, il y a un taux de masculinité accentué. Donc, même chez les élites, ça ressemble beaucoup à une intervention, à un contrôle des naissances. Pour conclure, les nouveaux-nés tués avant d'être baptisés constituent probablement la grande majorité des victimes d'infanticide. On a toujours vu une histoire de mère célibataire. Ça doit être seulement une petite fraction du total. Puisqu'ils étaient nés de mariages légitimes, les mères n'avaient pas besoin de cacher leur grossesse, ni même de prendre une décision avant la naissance. Les autorités auraient été réticents à être trop curieux, car en punissant la mère, ils condamnaient à mort d'autres enfants innocents. La fondation d'hospices pour les enfants abandonnés était souvent justifiée comme une alternative à l'infanticide. Il y a une littérature très vaste sur le taux de mortalité élevé dans ces institutions ou chez les nourrices, mais il semble que le taux de survie des bâtards restés avec leur mère était probablement plus mince encore. Les filles-mères n'avaient pas intérêt à garder en vie leur enfant. Bien que les hospices avaient un taux de mortalité très élevé, le bâtard avait probablement une chance plus élevée de vivre dans l'hospice que de rester à la maison avec sa mère. On pourrait insister que les parents devaient être préoccupés du salut de leur enfant, qu'ils n'auraient pas délibérément manqué au sacrement de baptême. À cela, il y a deux réponses. D'abord, un simple ondoiement par un parent ou une sage-femme suffisait pour que le petit âme soit admis au ciel. À la Sorbonne, il y a Vincent Gourdon qui travaille sur ce phénomène, l'ondoiement. Ensuite, les historiens culturels mettent trop d'accent sur l'universalité de la piété, même au XVIIe siècle. L'adhésion doctrinale stricte serait le fait de certains parents seulement. Et les autres se trouvaient devant un choix difficile à faire. Ils pouvaient être certains, jusque tard dans le XIXe siècle, que personne ne contesterait la prétention que l'enfant est mort-né ou est mort tout de suite après. Alors je finis en citant une paire d'anthropologues, Marvin Harris et Eric Ross, des Américains, des historiens de la transition démographique, qui disent que les historiens ont toujours mis trop d'accent sur le contrôle des naissances. Eux, ils veulent mettre l'accent sur ce qu'ils appellent le contrôle des décès. Il est probable, ils ont écrit sans preuve en 1987, que l'avortement et le néonaticide ont joué un rôle important dans la reproduction humaine et l'infanticide féminine en particulier. Cependant, les différentes classes pouvaient suivre des stratégies différentes. Selon notre recherche, il n'existerait pas un seul modèle idéologique au détriment des filles, ni toujours un infanticide en réaction à des crises de subsistance. Mais nous n'avons regardé qu'une trentaine de paroisses sur 100 000 dans l'Occident. Il y a deux dangers opposés dans ce projet. Le premier serait de faire des extrapolations à partir des bases de données trop restreintes. Le danger opposé serait d'agréger des baptêmes d'endroits différents ou pendant des périodes trop longues et donc de faire disparaître les anomalies intéressantes. Ce qui semble être un taux normal peut cacher des pratiques sectorielles contrastantes. On comprend que la preuve de l'existence d'une infanticide de routine introduit le gène parmi les démographes qui sont des passionnés du chiffre exact. Nous ne voyons pas l'étendue du phénomène, mais seulement l'écart entre garçons et filles, mais quand même cela réduit en ruine des décennies de travail sur la fécondité et le taux de mortalité infantile. Il faut les reviser tous les deux vers la hausse. Puisque nous sommes qu'au début de ce travail, nous allons assurément apprendre beaucoup de choses, et ça c'est le travail d'une prochaine génération.